Bonsoir à tous. Nous allons commencer par la désignation d'un secrétaire de séance et je vous propose celle de M. Jean-Paul Hublé. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous fais état des procurations que j'ai reçues, enfin de la procuration que j'ai reçue. C'est Olivia Nancy Polo qui a donné procuration à René Sauvera. En ce qui concerne les remerciements, je vous fais part des remerciements de Christophe et Stéphanie Bouche qui nous remercient pour notre présence lors des obsèques de Marie-Josée Bouche. Idem pour la famille de Francis Barthé qui nous remercie pour notre présence lors des obsèques de Francis. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il appelle de votre part des questions ou des remarques ? Non. Alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Et nous passons à l'ordre du jour avec comme premier rapport la communauté de communes Aigoulès-en-Provence demande de subvention au titre des fonds de concours 2026 pour les travaux de voirie Chemin des Mulets, rapporteur Hervé Aurillac.
Par la délibération 2021-55 du 8 avril 2021, le Conseil communautaire avait approuvé l'instauration des fonds de concours destinés à aider les communes du territoire dans la mise en œuvre de leurs projets d'investissement, ainsi que le règlement qui fixe les règles générales d'attribution de ces dotations d'investissement. Dans le cadre des travaux d'entretien de sa voirie, la commune a décidé de procéder à des travaux de voirie Chemin des Mulets. Ce chantier est justifié par la détérioration des accotements, engendrant des difficultés lors de croisements entre véhicules roulant sur l'accotement non stabilisé. Cette voirie avec une vitesse limitée à 50 voit un de ses accotements se dégrader fortement en raison du trafic quotidien important et de la nature du terrain aux abords de cette voirie qui se détériore après chaque nouvelle pluie. Cet aménagement consiste à reprendre et sécuriser sur 1 mètre de large un côté de l'accotement, suivant le profil en long sur les 1150 mètres linéaires de cette voirie, en lui offrant une assise plus saine et stable. Les travaux comprennent un rabotage de 50 cm de la voirie afin de pouvoir ancrer les futurs enrobés, le compactage du fond de fouille, la mise en œuvre d'un géotextile pour améliorer la stabilité des sols, augmenter la résistance mécanique des sols en les stabilisant, et protège aussi les matériaux et les pentes contre les risques d'érosion, la mise en œuvre d'une couche de fondation en grave type GNT 060, la GNT est perméable. Cette perméabilité du matériau limite la stagnation d'eau sous les structures qui est source de dégradation prématurée du revêtement final. Ainsi, pour les chantiers soumis à un trafic dense, lourd ou un environnement humide, la GNT apportera une réponse fiable et de durabilité dans le temps. La mise en œuvre d'une couche de roulement grave type GNT 031.5 crée une plateforme stable qui supporte les charges concentrées sans poinçonnement, offrant un équilibre entre performance, polyvalence et coût. La réalisation d'une couche d'imprégnation, puis la mise en œuvre et la réalisation d'une couche d'enrobé en BBS G010, idéal pour la réalisation de voiries lourdes ou à trafic important. Le montant global de ces travaux complémentaires est estimé à 78 990 euros hors taxe. Une subvention d'un montant de 39 495 euros est sollicitée au titre des fonds de concours 2026 de la CCAOP selon le plan de financement ci-dessous. Donc le montant des travaux a été annoncé, 78 990, commune de Camaret 39 495 à 50%, et le fonds de concours de la CCAOP qui est de 39 495 150% également, pour un total de 187 600.
Non,
78 990,
c'est une erreur.
C'est une erreur,
là.
Ah oui, 78 990, oui, c'est multiplié par deux. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article 52.14-16, vu le budget de la commune, il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de l'opération, je ne vais pas répéter les chiffres, et de solliciter auprès de monsieur le président de la communauté de communes Aigouvès-en-Provence une subvention à hauteur de 39 495 € au titre des fonds de concours pour la réalisation du projet décrit ci-dessus, et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet ? Merci.
Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 3, Grand Delta Habitat. Je vais plus vite que la musique. Communauté de communes Aigouvès-en-Provence, approbation de la convention cadre de groupement de communes, rapporteur Liliane Diaz.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants, vu la délibération 2026-DELIB-009 en date du 20 mars 2026, portant délégation d'attribution de pouvoir du Conseil municipal à Monsieur le maire, vu le projet de convention cadre de groupement de commandes, considérant que la mutualisation des achats constitue un vecteur d'optimisation de la commande publique, permettant de sécuriser juridiquement les procédures, de rationaliser les démarches et de réaliser des économies d'échelle, considérant que le Code de la commande publique en son article L2113-6 permet la mise en place de groupements de commandes entre plusieurs acheteurs publics afin de répondre à des besoins communs dans le cadre d'une convention fixant les modalités de fonctionnement du groupement, considérant que la présente convention cadre a pour objet de poser le cadre général des futurs groupements de commandes susceptibles d'être consultés durant le mandat pour tout type d'achat répondant à des besoins communs des communes membres et de la communauté de communes, considérant néanmoins que cette convention ne porte pas atteinte à la liberté d'adhésion de ses futurs membres, puisque l'adhésion à un groupement de commandes demeure facultative, et considérant que l'approbation de cette convention cadre relève des assemblées délibérantes concernées, et considérant qu'ensuite la commune formalisera son adhésion à chaque groupement de commandes par la signature d'une annexe à la dite convention cadre intitulée « Formulaire d'adhésion », qui identifie au minimum les collectivités adhérentes au groupement, l'estimation du besoin de chaque membre du groupement, les caractéristiques principales du marché mutualisé, les missions du coordonnateur et celles des autres membres du groupement, considérant qu'en application de l'article 2 de la Convention cadre de groupement de commandes, l'autorité habilitée à signer les formulaires d'adhésion sera Monsieur le maire, dans la limite de sa délégation en matière de marché public, fixée à 221 000 € hors taxes, qu'à défaut ce sera le conseil municipal. Le conseil municipal est donc invité à approuver la convention cadre de groupement de commandes et à autoriser Monsieur le maire à la signer. Il est proposé au conseil municipal d'approuver donc la convention cadre de groupement de commandes telle que présentée, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention cadre de groupement de commandes et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout annexe à la convention cadre engageant la collectivité à adhérer à un groupement de commandes dans la limite de sa délégation en matière de marché public.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors dossier numéro 3. Grand Delta Habitat. Avis concernant le projet de vente des résidences La Magnanerie et Les Ormeaux bis. Rapporteur René Sauverin.
Le bailleur social Grand Delta Habitat a fait connaître au préfet de Vaucluse son intention de vendre 3 résidences situées sur la commune de Camaret-sur-Aigue au profit des locataires. 16 appartements situés à la Magnanerie au 195 rue Alphonse Daudet, 53 villas situées les Ormeaux bis 6 chemin de la Chapelle, toutes résidences conventionnées aux APL. En application de l'article L443-7 du Code de la construction et de l'habitation, la commune, par la voix de son conseil municipal, doit émettre un avis sur ce projet dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre de consultation consultation du préfet qui rendra un avis dans 4 mois. La commune donne son avis en qualité de co-garante des prêts octroyés à GDH par la Caisse des dépôts et consignations. Il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis concernant ces projets de cession.
Merci. Alors, quelques points importants à souligner. Bon, d'abord, il y a une petite erreur. Je crois que c'est la préfecture qui a fait cette petite erreur. Il s'agit de la magnanerie des Ormobis et des Ormeaux, en fait. Donc, par contre, c'est bien 16 appartements à la magnanerie et 53 villas aux Ormeaux et aux Ormobis. Donc, ce que je tenais à souligner, c'est que il est vraiment important de savoir que c'est une... Ça paraît brutal comme ça, mais pas du tout. En fait, ça va s'échelonner sur une très longue période, puisque ne peuvent acheter que les locataires en place et leurs familles. C'est-à-dire que si le locataire ne veut pas acheter, il reste dans le logement autant qu'il le souhaite. En fait, le but, c'est aussi de permettre l'accession à la propriété pour les locataires en place d'un logement qui va être rénové pour cela par Grand Delta Habitat. J'ajoute que Grand Delta Habitat accompagne pour les prêts bancaires et il faut savoir que les mensualités liées aux prêts bancaires vont être égales en fait au loyer. Donc ça présente quand même un certain nombre d'avantages, en tout cas pour les occupants. Quant à l'offre de logement, on pourrait s'inquiéter de la baisse de l'offre de logement que cela peut entraîner à la longue, puisqu'encore une fois, il s'agit d'un processus qui est très long. En réalité, si on prend l'exemple des Ormeaux, et c'est la plupart des logements, on sait qu'aux Ormeaux, il y a très très peu de mobilité, les gens restent très longtemps aux Ormeaux, et donc il y a très peu de départs. Donc de toute façon, cette offre de logement effective, elle n'existe pas dans les faits. Dans les faits, elle n'existe pas puisque les gens ne bougent pas aux Ormeaux. Voilà ce que nous proposons. Nous proposons de donner un avis positif, favorable à cette opération, sachant que nous avons aussi insisté auprès de Grand Delta Habitat pour que la commune ait plus de maîtrise sur l'attribution des logements qui vont se faire notamment aux listes de Camaret. Et Grand État Habitat a accepté de mettre à notre disposition son contingent, le cas échéant, dans la mesure où, bien sûr, c'est possible et où ça ne contrevient à aucune convention ou disposition légale, mais ça va être le cas. Voilà, est-ce que vous avez des questions, Monsieur Lingui?
Oui, si. Je remarque au passage, il n'y a que nous qui en avons
un. Non, j'en ai un aussi.
Ah bon, je l'ai caché.
Non, je voulais simplement savoir, on va donner un avis favorable, hein, mais est-ce qu'il y a des locataires qui ne souhaitent pas acheter, parce qu'après tout,
ils restent dans le logement locataire. Voilà, tant qu'ils le souhaitent.
D'accord.
Selon la durée de leur bail. C'est une fois qu'ils libèrent le logement, qu'à ce moment-là, Grand Delta Habitat va pouvoir mettre en vente le dit logement.
Et le financement, c'est sous forme d'une mensualité, quoi. C'est plus un loyer, c'est une mensualité par jour.
Exactement.
D'accord, merci.
Et j'ajoute qu'ils ont fait une moyenne un petit peu du taux d'achat par les locataires dans le cadre de ce dispositif. Ça tourne entre 7 et 10% finalement des logements qui pourraient bénéficier de cette accession à la propriété. Donc ça veut dire qu'une grande majorité des locataires ne souhaitent pas acheter ou ne peuvent pas acheter. Ils restent dans les locaux et puis voilà. Voilà, donc, écoutez, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté l'unanimité. Voici numéro 4. Convention diagnostic salubrité des logements locatifs privés et publics occupés. Rapporteur Francine Deleu.
Le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne a mis en place un guichet unique des signalements en matière de lutte contre l'habitat indigne visant l'amélioration de leur collecte afin d'apporter une réponse plus efficace au traitement de la lutte contre l'habitat indigne, LHI en Vaucluse. Le maire est chargé de l'application des règles d'hygiène et de salubrité sur le territoire de sa commune sous la référence du RSD, Règlement Sanitaire Départemental, qui constitue le texte de référence pour imposer des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité publique qui permettent de résoudre les principaux problèmes de nuisance au quotidien. Afin de faire face aux signalements, la mairie de Camaret-sur-Aigle peut confier à l'association Solia de Vaucluse la réalisation des visites techniques, des logements signalés et l'élaboration des diagnostics salubrité auprès de 550 euros pour la réalisation des diagnostics salubrité incluant la contre-visite. Ce dispositif a pour objectif à la fois de l'évaluation des situations d'indécence et la promotion des aides à leur mise en conformité afin de garantir le maintien des locataires dans leur logement devenu décent et conforme aux réglementations en vigueur. Considérant qu'il convient de conclure avec l'association Solia de Vaucluse une convention relative à la réalisation des diagnostics salubrité des logements locatifs privés et publics pour la bonne marche des procédures à engager. Oui, la proposition de Monsieur le maire. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention relative à la réalisation des diagnostics salubrité des logements locatifs privés et publics, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, de prévoir les crédits nécessaires au budget principal.
Monsieur Mangui, deux remarques. D'abord, combien de signalements avez-vous en mairie sur du logement insalubre ou indigne ?
Très, très peu.
Très peu.
Il y en a depuis une année, on en a eu trois, dont un qui s'est réglé avant qu'on lance les procédures.
D'accord. Et puis, une remarque quand même, je trouve un peu... paradoxal que sur des questions de logement insalubre, ce soit à la commune de payer quand même une prestation qui est quand même de 550 euros, c'est quand même pas rien. Alors heureusement qu'il n'y en a que trois, mais je trouve quand même que c'est quand même une... Ça me paraît bizarre, quoi.
Oui, mais c'est la loi qui prévoit la responsabilité du maire en matière d'habitat insalubre et d'habitat menace en ruine.
Oui, mais il n'oblige pas à signer une convention de ce type. Hein. Alors qu'il y a, effectivement toute une série de procédures qui existent. Hein. Donc voilà. Bon. Je trouve... particulier que ce soit la commune qui paye cette prestation pour des propriétaires qui ne font pas ce qu'il faut. C'est quand même paradoxal. De votre point de vue.
Oui, mais c'est un point de vue qui se défend très bien, mais bon, c'est comme ça. Alors, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, le groupe Camaret au cœur. Adopté à la majorité. Dossier numéro 5, structure multi-accueil, modification du règlement de fonctionnement, rapporteur Isabelle Lattard.
Opération du 16 septembre 2010. Par délibération du 16 septembre 2010, le conseil municipal a approuvé le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil. Ce dernier ayant été modifié par plusieurs délibérations, dont la dernière date du 30 septembre 2025. Vu la nécessité de se conformer à la réglementation, il convient d'effectuer une mise à jour du règlement intérieur et plus particulièrement sur la partie suivante. Participation financière des familles, la facturation. Un système d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ des enfants par pointage sur tablette est mis en place conformément à la réglementation afin d'établir la facturation mensuelle. Les parents sont tenus de pointer dès l'entrée dans la structure et au moment de la sortie avec l'enfant. toute absence de pointage ou erreur de manipulation entraînera automatiquement un enregistrement sur la base des heures prévues au contrat. Vu la délibération numéro 2010-108 du 16 septembre 2010 portant règlement intérieur de fonctionnement de la structure multi-accueil, je vous fais pas. Vu l'extrait du projet du règlement présenté avec les modifications envisagées, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les modifications ci-dessus mentionnées, ainsi que la mise à jour de l'ensemble du règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil et de dire que toutes les autres dispositions restent inchangées. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Madame Rose.
En fait, là, on ajoute juste un système, c'est la PMI qui nous a demandé, suite au dernier contrôle, d'instaurer ce système, un système de pointage avec tablette à chaque dépôt d'enfant par les parents. Voilà, c'est un ajout par rapport au règlement précédent. Avant, c'était un contrôle visuel et une inscription manuscrite ou informatique par la directrice ou par l'agent qui faisait l'accueil. Et maintenant, ça va être un pointage par tablette enregistré. Voilà. D'autres questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 6, relais petite enfance de Camaret, renouvellement de la convention de partenariat intercommune, rapporteur Sylvette Gilles.
Dans le cadre de la convention territoriale globale signée, la CTG, signée entre la caisse d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole et la commune de Camaret-sur-Aigle, il a été prévu la mise en place du relais petite enfance pour la commune, le RPE. Au travers des deux grandes missions du RPE, le RPE participe à l'observation des conditions locales d'accueil du jeune enfant. Le RPE a une mission d'information en tant que direction des parents et des professionnels de la petite enfance d'une part et offre un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles d'autre part. Ce projet concerne les communes de Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat, Travaillant, Huchot, Violès, la gare de Paréole et Camaret. Une convention de partenariat entre les communes intéressées a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de financement du RPE entre la commune de Camaret, porteuse du projet et siège de la structure, et les autres communes bénéficiaires. Le relais est assuré par une éducatrice spécialisée, travaillant à temps complet. La convention précise également les modalités de permanence sur les communes extérieures, ainsi que les modalités de représentation des différentes communes membres au sein du comité de pilotage RPE. La convention de partenariat prévoit en outre le maintien du comité RPE chargé de suivre son fonctionnement, évaluer les actions et en fixer le budget. La commune de Camaret demeure commune coordinatrice. Chaque commune est appelée à participer financièrement au fonctionnement du relais, selon la règle de proratisation fixée comme suit. La commune de Camaret perçoit la prestation de service ordinaire RPE et la prestation de service liée à la CTG de la part de la CAF. Une fois ces prestations déduites, le reste à charge est réparti entre toutes les communes, en fonction de leur population INSEE respective mise à jour. Un bilan d'exercice est établi annuellement. Il convient par conséquent de prendre en considération ces éléments et de présenter une convention actualisée. Vu le budget prévisionnel 2026, vu le projet de convention, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la convention de partenariat telle qu'annexée et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Et vous avez en pièce jointe le projet de convention.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Voici le numéro 7. Échange de parcelles entre la commune de Camaret et la Fédération de pêche, rapporteur Hervé Aurillac.
La Fédération des Vaucluses pour la pêche est propriétaire de plusieurs parcelles situées au quartier Saint-Tronquet qui desservent l'ancienne pisciculture. La Fédération des Vaucluses pour la pêche désire procéder à la vente de ces parcelles. Afin de régulariser l'emprise d'un chemin rural déplacé par les utilisateurs depuis de nombreuses années, il est nécessaire de procéder à un échange de parcelles cadastrées, section D, numéro 968, 969 et 235, appartenant à la commune de Camaret-sur-Aigle, contre les parcelles cadastrées, section D, numéro 977, 974, 971, 987, 984, 980, 981 et 805, appartenant à la Fédération. Le service des domaines a évalué ces parcelles le 16 février 2026. Au vu de l'étude de marché réalisée et dans le cadre d'une opération d'échange sans soulte, il est proposé de retenir une valeur vénale de 1 euro le mètre carré. Valeur vénale des parcelles appartenant à la commune, 458 euros. Et valeur vénale des parcelles appartenant à la Fédération de pêche, 944 euros. Vu l'avis de France Domaine en date du 16 février, il est demandé au conseil municipal d'accepter l'échange sans soulte, ni de part ni d'autre, les parcelles cadastrées section D numéro appartenant à la commune de Camaret contre les parcelles cadastrées section D numéro appartenant à la Fédération de pêche. De désigner l'étude notariale de maître Fanny Montagnier et Stéphane Degras pour rédiger l'acte. De préciser que tous les frais liés à cet échange seront à la charge de la Fédération de pêche de Vaucluse. Et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Vous avez la modification du parcellaire à cadastral. Donc peut-être vous pouvez vous poser des questions concernant les parcelles. On a annoncé des parcelles à 900. C'est la nouvelle numérotation qui n'apparaît pas sur le plan cadastral pour l'instant. Donc ça, c'est un enregistrement qui va se faire dans les mois qui viennent. Vous pouvez remarquer qu'il y a deux couleurs. La couleur bleue clair qui est l'achat pisciculture et l'achat bleu foncé qui appartient à la mairie. Vous avez une parcelle également qui est numérotée 805, c'est la source. Ça, c'est monsieur le maire privilégie ce droit d'eau qu'on puisse accéder et qu'on puisse bénéficier, si vous voulez, et être propriétaire de la source. La parcelle 805 en bleu. Ah ouais, moi j'ai vert ou bleu. Alors, je suis daltonien, donc pardon.
Enfin, si je comprends bien, ce qui est en vert actuellement, c'est à la Fédération de pêche. C'est ça qui va revenir à la commune. Et ce qui est en bleu est à la commune.
Est à la mairie. Tout à fait. Est à la commune.
Ça va aller à la Fédération de pêche.
Parce qu'il y avait un cabanon qui nous appartenait toujours là-bas.
Donc la commune, oui, conserve l'accès et la source. C'est ça l'intérêt de... Ouais. Et ça se situe sur le parcours de l'eau, non ? C'est pas...
C'est le lieu dit la pisciculture.
Ouais.
C'est la pisciculture, je ne sais pas si
près de Saint-Tronquet, par là-bas.
Oui, c'est au quartier Saint-Tronquet. C'est pas très loin de ce qu'on appelle l'étang de Saint-Tronquet. Ouais. Le petit étang de Saint-Tronquet.
Ok.
Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 8, dénomination du boulodrome, rapporteur Jean-Luc Dacosta.
L'article 21-29 du Code général des collectivités territoriales qui précise que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Considérant l'engagement de M. Raymond Rouen dans la création et le développement de l'association La Grosse Boule de Camaret-sur-Aigle, considérant son implication dans la vie associative de notre ville avec passion et dévouement, il est proposé de dénommer le boulodrome ainsi boulodrome Raymond Rouen. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la dénomination du boulodrome Raymond Rouen. D'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents afférents à cette dénomination.
Merci. Y a-t-il des questions? Bon, je pense que ça ne souffre pas guère la contestation, ce genre de dénomination, considérant effectivement l'implication de Raymond Roux de très très nombreuses années pour tenir à bout de bras ce club 37 ans dans la grosse boule, la boule lyonnaise. Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 9, création de commission communale et nomination des membres. Conformément à l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales, permettant au conseil municipal de constituer des commissions municipales chargées de l'étude et de l'instruction des dossiers à soumettre au conseil municipal, ces commissions sont convoquées par le maire, qui est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent la nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Considérant que pour les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale, le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret. Vu les listes proposées pour faire partie ou qui vont être proposées pour faire partie des différentes commissions municipales, oui, l'exposé du maire indiquant que le nombre de membres de chaque commission pourrait être fixé à 8 conseillers afin que celles-ci puissent fonctionner correctement et remplir pleinement leur rôle, et précisant que le maire est président de droit, il est demandé au conseil municipal de créer les commissions municipale suivante et d'en nommer les membres à hauteur de 8 conseillers municipaux selon les listes des candidats que nous proposons. Donc je vais mettre la main dessus. Alors, pour la commission des affaires sociales, pour le groupe majoritaire, nous proposons René Sauvera, vice-présidente, Antonio Muga, Sylvette Gilles, Patricia Muret, Francine Deneux, Monique Mancione, Michel Aubert. Et pour l'opposition, M. Mendy. Ensuite, la commission jeunesse, sport et associations sportives, vice-président Jean-Luc Dacosta. Donc, le groupe majoritaire propose Jean-Luc Dacosta, vice-président, Chantal Bergel, Gérard Thon, Sylvette Gilles, Olivia Nancipolo, Jean-Paul Hublé, Antonio Muga. Et pour l'opposition, Nathalie Rose. Pour la commission environnement et développement durable, vice-président Delvire Théoki, Jean-Paul Dublé, Jean-Luc Dacosta, Francine Deneux, Michel Aubert, Sylvain Gilles, Monique Pensionne, et pour l'opposition, Françoise Vierlouvet. Et voilà. Donc, pour ces 3 commissions, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 10, comité des fêtes, désignation de 2 représentants du conseil municipal, rapporteur David Azzolini.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Il a été créé une association régie par la loi du 1er juillet 1901, nommée Comité des fêtes de Camaret-sur-Aigue. Cette association a vocation à organiser des festivités ainsi que différentes manifestations participant au rayonnement de la commune. Elle est disponible pour favoriser et développer le tissu interassociatif. Le siège social est fixé en mairie de Camaret-sur-Aigue. L'association est composée de membres fondateurs. Les membres fondateurs sont de droit, membres de l'Assemblée Générale, avec voix délibérative, ainsi que du bureau de l'association durant sa première année d'existence. Ils sont considérés comme des membres actifs. Les membres de droit sont identifiés comme tels 2 représentants désignés du conseil municipal de la ville de Camaret-sur-Aigue. Ils sont également membres fondateurs et membres actifs. De membres actifs ou adhérents sont identifiés comme membres actifs ou adhérents les membres du comité des fêtes ou les membres des associations adhérentes et cotisantes qui participent aux activités et contribuent à la réalisation des objectifs fixés. Il est demandé au conseil municipal de désigner deux représentants du conseil municipal au sein du comité des fêtes. Monsieur le maire est désigné de droit comme président d'honneur de l'association, conformément au statut de cette dernière.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix qui... J'ai cru qu'il l'avait lu, mais il fallait que j'écoute. Alors, nous proposons David Azzolini et Michel Aubert. La prochaine fois, je t'écouterai. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11, communauté de communes de Mauvaise-en-Provence, désignation des délégués de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Le conseil municipal est appelé à désigner un membre titulaire et un membre suppléant, amené à siéger au sein de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLECT, créée par la communauté de communes de Mauvaise-en-Provence par délibération du 13 avril 2026. Cette commission a pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées au transfert de compétences et contribue à garantir l'équité financière entre les communes membres et la communauté de communes de Mauvaise-en-Provence en apportant transparence et neutralité des données financières. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général des impôts et notamment l'article 1609-C, vu la délibération du 13 avril 2026 du Conseil communautaire relative à la constitution de la commission locale et d'évaluation des transferts de charges, vu la décision à l'unanimité des membres du Conseil municipal de désigner les 10 membres à main levée, il est proposé au Conseil municipal de désigner un membre titulaire et un membre suppléant de la CLECT, de la commission de communes de Mauvaise-en-Provence. Donc son candidat comme titulaire est ma modeste personne et comme suppléante Liliane Diaz. Et je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, abstention du groupe Camaret au cœur. Dossier numéro 12, approbation du règlement intérieur du conseil municipal. Vu l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoyant l'obligation pour les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se doter d'un règlement intérieur, considérant que dans ces dites communes, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation, il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du conseil municipal tel que présenté. Donc vous l'avez eu en pièce jointe. En réalité, nous n'avons fait qu'une adaptation tout à fait mineure par rapport au règlement intérieur précédent. C'est-à-dire que nous institutionnalisons les groupes d'élus qui ne sont pas obligatoires pour les communes de moins de 100 000 habitants, mais ces communes-là peuvent quand même institutionnaliser les groupes d'élus. On s'adapte au fait. Hein. Il y a deux groupes, majorité et opposition. Simplement, on prévoit la possibilité, encore une fois, c'est la possibilité, notamment pour le groupe d'opposition, d'écrire au maire et de dire, voilà, il y a tel groupe qui est constitué, il est composé de tel ou tel membre et il est présidé. C'est un peu ça aussi, le but, c'est d'avoir un interlocuteur, un chef de groupe. On peut supposer que la tête de liste précédente est de fait la chef du groupe, la présidente du groupe. Enfin, après, on vous laisse toute latitude. Voilà, c'est juste une adaptation pour se conformer à ce qui se fait dans les faits. Quoi. Est-ce que vous avez des questions ? 32. Sinon, le reste est rigoureusement inchangé. Non, je ne lis pas, non. Pas de questions. Alors, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Abstention du groupe Camaret au cœur. Voici le numéro 13, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, adhésion à la mission d'accompagnement, coaching, rapporteur Antonio Buga.
Oui, on l'a vu. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, CDG 84, propose aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d'adhérer par voie de convention à la mission facultative complémentaire de coaching. Le coaching est un accompagnement qui permet à la personne bénéficiaire de découvrir, de mobiliser des ressources pour résoudre une problématique ou mener à bien un projet en produisant ses propres solutions. Le coaching s'adresse à toute personne qui fait face à des changements, des nouveautés, des difficultés d'ordre professionnel. Il peut être proposé dans différentes situations, la prise de nouvelles fonctions, le changement d'organisation, des tensions managériales, un développement professionnel. Le coaching peut être également proposé à une équipe. Il s'agira dans ce cas d'améliorer les pratiques professionnelles et les compétences de l'équipe, de développer les interactions et de renforcer la cohésion ou bien de favoriser le travail en équipe par des relations de coopération. Chaque mission sera facturée selon la grille tarifaire mentionnée dans la convention. Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Vaucluse en date du 28 novembre 2019, considérant l'intérêt pour la collectivité d'adhérer à la procédure au regard de l'objet et des modalités proposées, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la mission facultative complémentaire coaching mise en place par le CDG 84, d'approuver la convention à conclure avec le CDG 84, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document afférent.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 14, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, convention aide à l'archivage, rapporteur Antonio Méga.
Le maire informe l'Assemblée que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, au-delà du champ d'intervention de ses missions obligatoires et en vertu des articles L452-25 à 32 et L452-35 à 47 du Code général de la fonction publique, a développé au service des collectivités du département une prestation facultative aide à l'archivage. Le CDG 84 met à disposition de la collectivité un archiviste diplômé qui effectue les actions suivantes. Tri et préparation des éliminations, rédaction des bordereaux d'élimination soumis au visa des archives départementales, rédaction des instruments de recherche, recollement, inventaire, bordereaux de versement sous forme papier et électronique, réalisation de tableaux de gestion des archives indiquant la durée de conservation des documents, formation, sensibilisation du personnel à l'archivage courant, conseil en matière d'organisation, de conservation préventive, d'aménagement des locaux, aide à la préparation de l'archivage électronique, reconnement des archives. Pour l'archivage papier, l'archiviste propose une estimation de la durée de la mission suite à la réalisation d'un diagnostic effectué gratuitement. Les missions peuvent être fractionnées sur plusieurs exercices budgétaires. Pour la prestation archivage électronique, le nombre de jours d'intervention est fixé après une première journée permettant d'établir un état des lieux. Les missions peuvent être fractionnées sur plusieurs exercices budgétaires à la demande de la collectivité ou du CDG selon la charge de travail ou du service aide à l'archivage. Pour la prestation ou recollement, la durée d'intervention est fonction de la strate démographique de la collectivité. Moins de 2000 habitants un jour, de 2000 à 5000 habitants deux jours, de 5000 à 10000 habitants trois jours, plus de 10000 habitants quatre jours. Les tarifs proposés sont les suivants pour les collectivités et établissements publics affiliés. Diagnostic gratuit pour l'archivage papier, forfait pour la journée d'intervention de 250 € frais de déplacement et de repas compris. Pour les collectivités et établissements publics non affiliés, diagnostic gratuit pour l'archivage papier, forfait de la journée d'intervention de 290 € frais de déplacement et de repas compris. Il est demandé au conseil municipal d'adhérer à la mission facultative d'aide à l'archivage mise en place par le CDG 84, d'approuver la convention d'aide à l'archivage proposée par le CDG 84, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention ainsi que tout document y afférent.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 15. Création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. Rapporteur Antonio Muga.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la fonction publique et notamment les articles L332-23, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint technique territorial, oui, la proposition de M. le maire de créer ces postes d'adjoint technique territoriaux, il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer le poste suivant pour un accroissement saisonnier, 5 postes d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service technique, d'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 du budget principal de la commune.
Merci. La question, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté de l'unanimité. Dossier numéro 16, modification du tableau théorique des effectifs, rapporteur Antonio Miga.
Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la délibération du 31 mars 2026 établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Camaret-sur-Aigle, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évolution de carrière, considérant l'intégration du tableau théorique des avancements de grade, considérant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2026 au chapitre 012, considérant l'avis des membres du comité social territorial en date du 18 mai 2026, il est demandé au conseil municipal d'accepter la suppression des postes budgétaires suivants: un poste d'attaché territorial à temps complet, un poste d'adjoint technique territorial à temps complet, un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps complet, deux postes d'adjoint territorial d'animation principale de deuxième classe à temps complet, d'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté de l'unanimité. Alors, vous avez reçu l'état des déclarations d'intention d'aliéné ainsi que l'état des décisions du maire. Est-ce qu'il y a à ce propos des questions ? Monsieur Mendy.
Concernant les décisions du maire, mars et avril 2026, il y a eu une mission de diagnostic et d'accompagnement du service enfance-jeunesse pour 8 730 euros. Est-ce qu'on pourrait connaître l'objectif de cette mission et dans quel but elle a été effectuée, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Ben, comme vous ne l'ignorez pas sans doute, le service enfant-jeunesse, c'est le plus gros service de la commune, de la mairie, avec un effectif vraiment important, des problématiques diverses et variées. Et voilà, on a trouvé important de mettre à plat un peu le fonctionnement du service pour voir si on pouvait l'améliorer, et ce, en s'appuyant sur des conseils avisés. Alors, plus précis, il s'agit pour nous de mettre en adéquation la qualité du service, les obligations réglementaires, les coûts, les problèmes de management, la qualité de travail du personnel. Il faut savoir que Estia Formation, c'est un cabinet spécialisé dans la structure d'accueil de loisirs et de secteur enfants jeunesse. Et c'est un organisme qui est partenaire du CDG 84. C'est d'ailleurs le CDG 84 qui nous l'a recommandé. C'est une mission de 2 mois qui comprend l'analyse de tous les documents financiers, administratifs et ressources humaines du service. Ça comprend aussi dans la mission des entretiens individuels avec l'ensemble du personnel, aussi bien les cadres que les agents, et les élus délégués, bien sûr, le DGS et le service des ressources humaines. Cette mission comprend aussi des échanges avec les services de la CAF, de la PMI, de la Direction départementale jeunesse et sport. Et il y aura aussi la réaction, bien entendu, de la rédaction d'un rapport détaillé qui va faire un état des lieux, qui va mettre en avant les points forts, ainsi que les problématiques, ainsi que des propositions éventuelles de réforme ou d'adaptation. Il y aura in fine aussi une réunion de présentation de ce rapport aux agents. Et l'organisme nous procurera aussi un accompagnement de la mise en œuvre des adaptations éventuelles ainsi que des formations adéquates. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui. Par contre, est-ce qu'on pourrait en être destinataire une fois que cette mission sera formalisée?
Parce que ça fera l'objet d'une réunion affaires scolaires enfants-jeunesse spécifique.
Mais néanmoins, on pourra quand même avoir ce document.
Oui, bien sûr.
D'accord, merci.
Y a-t-il d'autres questions? Madame Virlouvé.
Ça sort un petit peu des délibérations, mais il y a eu une réunion avec le collectif Carrefour Sablas. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'il est ressorti de cette réunion?
Écoutez, oui, bien entendu. Une réunion avec le collectif du Carrefour Sablas, avec des représentants d'ailleurs du conseil départemental, puisqu'il y avait nos deux élus départementaux. Il y avait le maire de Sérignan aussi, qui était là à la fois en tant que maire de Sérignan, mais aussi président de la communauté d'Aigouvaise en Provence. Il y avait nos techniciens. Il y a divers représentants du collectif et quatre élus. Quatre conseillers départementaux, oui, puisqu'il y avait aussi le canton de Baleine, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire? Je peux vous en dire qu'effectivement, notamment suite à l'accident mortel qui a eu lieu récemment, on a sensibilisé le conseil départemental qui est le décisionnaire en la matière, comme vous le savez, pour trouver une solution rapidement, voire pour adapter le processus qui était prévu il y a quelques années, c'est-à-dire tout d'abord implanter un rond-point à Sérignan devant la caserne des pompiers et l'accès à la zone d'activité, et ensuite un rond-point au Carrefour de Sablas. Donc ça, c'était il y a quelques temps. Vu l'urgence, la dangerosité du site, qui a été démontrée malheureusement par les faits, tout le monde est convenu que nous allons proposer autre chose. Notre souhait avant tout, c'est, comme vous vous en doutez, c'est un carrefour prioritairement au Carrefour de Sablas. Il faut pour cela que nous obtenions l'accord de la commune de Sérignan, que nous allons rencontrer incessamment sous peu. Et une fois que nous serons mis d'accord ou pas, sur ce que nous verrons, nous allons de notre côté à nouveau rencontrer le conseil départemental, à la fois au niveau élu et au niveau technicien, pour dire ce que nous pensons de cette situation, qui sera née de notre rencontre avec la commune de Sérignan, que nous espérons faire changer d'avis. Pour le prochain conseil municipal, outre celui du 5 juin, qui lui est spécifiquement dédié à l'élection des délégués pour l'élection des élections sénatoriales, donc voilà, vous aurez la possibilité de présenter une liste si vous le souhaitez, que vous pourrez nous remettre soit dès maintenant, soit le jour du scrutin, mais avant l'ouverture du scrutin. Décide.
Il a un petit délai de réaction. J'ai reçu un mail de Cyril Pesson et donc je lui ai répondu, je lui ai envoyé la liste.
D'accord, très bien. Donc sinon, en dehors de ce conseil du 5,
Est-ce que... Sauf surprise, ça sera deuxième quinzaine de septembre, mais on n'a pas de date fixée encore. Donc on en verra rapidement. Avant les vacances, on en verra la date pour celui de
septembre. Très bien. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions ou questions, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne soirée et vous invite au verre de l'amitié.